faisait de la musique dans notre studio en 99 et il y a eu une explosion avec le bug et depuis on est devenus des robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Les accidents, on les prédit jamais.
C'est quoi la French Touch ?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch ? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
C'est un sacré bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdan.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne.
Épisode 3, la déflagration homework.
Quand j'ai commencé à bosser avec eux,
Pedro Winter,
je répondais aux fax et il y avait des demandes vraiment tous les... S'ils avaient voulu, ils auraient pu jouer 7 fois par semaine.
Ancien manager des Daft Punk.
Et en fait, on refusait tout, donc mon job était de dire non à tout avec un grand sourire, puisque à ce moment-là, la priorité, c'était de finir l'album Homework.
J'ai rencontré Thomas vraiment quand il était en train de finir Homework, en fait.
Benjamin Diamond, du groupe Stardust.
Je me rappelle être allé chez lui et qu'il m'avait fait écouter, je crois, On the World sur son Revox, quoi. C'était pas sorti encore. La première fois que j'ai écouté ça chez Thomas, je me suis dit waouh, c'est un truc de ma boule quoi. J'avais jamais entendu un truc comme ça en fait. On écoutait ça dans sa chambre et je comprenais pas parce que j'avais déjà été dans des studios et je me rappelle qu'à l'époque, bon, je pense que je peux le dire, de toute façon il n'y a pas de secret, il écoutait, en fait il mixait sur un ghetto blaster, en fait il mixait sa musique là-dessus quoi. Et il me disait ouais, bah je le mixe là-dessus comme ça, c'est prêt pour la radio déjà. Et je lui disais ah ouais, d'accord. Il me disait si ça sonne là-dessus, bah voilà, ça sonnera partout quoi. C'était juste un peu avant que les Daft deviennent des Rostas, quoi. C'était un moment assez étonnant. Tu sentais quand même qu'il allait se passer quelque chose, en fait.
C'est vrai que Thomas, il a le package. Oh
yeah. DJ Falcon.
Il a tout à la fois. On peut pas le mettre dans une case, Thomas. C'est un mec qui est hyper curieux. C'est un geek. C'est un gros bosseur. Bon, déjà, il a une espèce d'oreille ultime. Hein. Tu sais, il y a des moments, moi, je me suis retrouvé donc, en studio avec lui. Imagine que tu as un copain qui est magicien. Bon, bah, tu te dis, OK, on va préparer un tour ensemble. Donc, à un moment, je vais quand même voir comment il fait, comprendre. Et bah, t'es là. Et bah, non, tu comprends pas. Et Guiman, il peut venir, il a le truc tout de suite. Tout de suite, le premier jet, il peut... Il a une autre manière de faire. C'est pour ça qu'ils étaient complémentaires, qu'ils avaient ce truc. Mais je sais que Guiman, il peut trouver tout de suite la petite gimmick, le petit truc. Il a une espèce de jet, de truc comme ça, un peu immédiat.
Et en fait, quand tu discutes, Thomas me dit, bah oui, mais le but du jeu, nous, c'est d'être compris dans le monde entier.
Daniel Dosser.
Il n'y a rien de plus simple que ça, c'est de la pop musique.
Premier manager des Daft Punk.
On n'est pas obligé de faire de la poésie, cette poésie elle marche comme ça. C'est pas je suis naturellement débile donc j'écris trois mots parce que je sais écrire que trois mots. C'est pas le cas. Quand tu les connais, tu comprends très vite que c'est pas des abrutis et que c'est pas des incultes. Donc en fait ils le font, c'est une volonté. Donc ils sont compris par le monde entier. On cherche le plus simple, sans d'être simpliste. Et ça, je trouve ça génial.
Enfin, ce qui nous concerne, même pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la...
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, 1997.
La juxtaposition de Ring and Scratching et Round the World à côté, qui fait aussi ce caractère et la personnalité du truc. Quoi. on a essayé de faire de quelque chose d'assez dansant. Maintenant, on n'est pas... Nous, on ne considère pas qu'on fait de la techno. Là, il y a Daft Punk qui sort. Ensuite, il y a Around the World, qui, à mon avis, est assez différent de Daft Punk quand même, plus, un peu plus soft. Et puis ensuite, il y a un morceau plus violent. Je pense que c'est là le chose intéressante. C'est de autant juxtaposer des trucs sur un album, autant même de la présentation d'un titre, la radio, tout ça, c'est de faire des trucs vraiment différents.
Rock'n'roll des Daft qui m'a fait changer de cap parce que, en gros, je m'aperçois que sur un son électronique,
Sébastien,
quelque chose d'autre qu'une voix ou je sais pas quoi peut évoluer. Mais évoluer au sens, c'est t'as l'impression que l'espèce de synthé un peu hard qui avance dessus, qui machin, est vivant. D'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais ça, c'est complètement ma boule. Je me mets à voir la musique électronique différemment. Parce que la vision que t'en as quand t'es plus jeune, c'est un truc un peu tunnel et tout. Ce que j'avais entendu de Thomas, c'était... En fait, il y avait quasiment une pensée qu'on aurait dit des disquaires qui voulaient faire découvrir des trucs à des gens et qui s'utilisaient eux-mêmes pour le faire. J'avais l'impression que l'idée, c'était de ramener les gens du rock au club. Après, sur le deuxième album, de faire un peu l'inverse, de ramener les gens de la pop. Mais en gros, il y avait un truc quasiment ludique dans la manière de penser les morceaux. Sans chanter, sans faire je sais pas quoi, tu peux faire vraiment bouger enfin, c'est vivant.
Pendant toute une période, jusqu'à la sortie de l'album...
Serge Nicolas, graphiste du premier album des Daft Punk.
Ils ont été sollicités par la presse et les différents médias pour des interviews. Et en fait, ils se sont rendus compte... Au début, ils voulaient trouver un truc pour se représenter, mais ils n'arrivaient jamais à être à l'aise avec leur propre image. Ils avaient un côté un peu timide et ils n'étaient pas à l'aise avec le fait de se montrer publiquement, etc.
Quand on avait des journalistes qui arrivaient chez Daft Trax pour faire des interviews et ils nous disaient « Bon, allez, maintenant, on a fait l'interview, on va faire une photo du groupe. » Moi, je fonçais rue du Faubourg-Montmartre acheter des pauvres masques pour les camoufler et je prenais un peu ce qui me tombait sous la main. Alors, il y a des photos qui sont plus ou moins réussies. Il y en a, avec le recul, je dois avouer que je me dis « Ah merde, on aurait peut-être trouvé d'autres masques. » Bah, c'était n'importe quoi. Ça peut être une grenouille, du cellophane, du papier aluminium.
On s'emballait les visages de cellophane pour produits alimentaires.
Philippe Lévy, premier photographe officiel des Daft Punk.
Donc je me retrouve avec deux gars qui ressemblent à des cambrioleurs de banque, le visage déformé par le plastique.
Quand ils faisaient du live, ils portaient rien.
Maya Masbeuf, directrice artistique chez Virgin.
Donc à l'époque, ils n'avaient pas encore cette idée de mettre un masque, un casque, etc. Sauf pour la promo. Je me rappelle très bien, ils nous disaient... On se montrera pas, on fera pas de télé, mais on vous amènera des visuels. Est-ce que c'est bon pour vous ? Nous, on leur faisait confiance déjà. On était assez impressionnés à leur âge de voir qu'ils avaient déjà toute cette vision artistique de leur projet. Et ils nous ont dit, pour l'instant, on préfère ne pas montrer nos visages parce qu'on a envie d'aller acheter notre croissant à la boulangerie et qu'on soit tranquille.
Avec un groupe comme ça qui a tellement toujours tout maîtrisé.
Pedro Winter.
Et ben là, on est en 97. Et ben finalement, on était un peu totalement en freestyle. On tâtonnait un petit peu parce que c'était nouveau aussi pour les journalistes. Ils comprenaient pas. Ils disaient mais attendez, vous voulez devenir des stars et vous voulez pas vous montrer. C'était complètement anachronique et en dehors de ce que tout le monde pouvait attendre du groupe dont tout le monde espérait. La machine Virgin était là, vous allez voir, c'est le groupe qui va révolutionner, ils en faisaient des caisses.
Malgré la médiatisation qu'il y aura justement de l'album et de choses qui peuvent grossir énormément si ça marche.
Thomas Bangalter, 1996.
C'est de dire arrêtez, ça, ce truc de star system et d'ego, ça c'est ridicule et c'est la merde. Donc les gens pourront le percevoir comme ils veulent parce qu'il y aura justement sorte de mur et puis inventer tout ce qu'ils voudront. Ouais. Mais à mon avis, c'est plus, enfin, moi, ça m'importe plus de pouvoir vivre normalement par rapport à des milliers de personnes que par rapport à 4 journalistes qui seraient pas contents.
Thomas ?
Ouais ?
Tu veux un truc à boire ?
Ouais, je veux bien, ouais.
Quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Des jus, Coca-Cola.
Du coca, je veux bien.
Recherché pour cause de succès mondial. À 20 et 21 ans, Thomas et Guy-Manuel, alias Daft Punk, ont déjà vendu 400 000 albums. Une musique post-moderne disco, entièrement fabriquée dans un appartement, à l'assaut de la planète, Virgin, la première compagnie à avoir investi dans la house parisienne, n'en revient toujours pas.
Finalement, ils ont fait une gêne, le fait d'apparaître publiquement et de jouer avec leur image. Ils en ont fait un parti pris artistique, parce que finalement, ils se sont dit, bon, ben, comme on n'arrive pas à trouver une façon de nous représenter qui nous convient, on va dire qu'on ne se montre plus et on va essayer de trouver un avatar, quoi. Hein, finalement, comme ont pu le faire Kraftwerk, les Residents ou d'autres groupes. Voilà.
L'attitude, la conscience de savoir ce qu'il faut faire, le fait qu'ils soient ultra doués, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Aucune raison. Je pense qu'ils auraient continué à faire du rock, c'était la même chose.
Daniel Dosser, 2005.
Ils ont juste profité un moment, parce que c'était dans l'air du temps, parce qu'il fallait, parce que c'était comme ça. Ils sont adaptés par volonté, hein, parce qu'aussi ça les, ils aimaient ça. Mais moi, je me suis jamais fait aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que les gens l'ont senti. Parce que quand ils ont sorti le premier maxi, qui s'est pas mal vendu, hein, pour que ça va, le premier. Mais quand l'album est sorti, il y avait pour moi 50% de chance, ou même plus, qu'ils se fassent dégommer. En tout cas, par tout ce qu'il y avait, justement, c'est pour ça que je te dis ça, par rapport à tout ce petit milieu retraite, tout le milieu indé underground. C'était très facile de dire, ah, ils sont devenus commerciaux, ils ont signé chez Virgin, ils sont sortis de la merde. Et ça a été unanime quand l'album est sorti, les gens ont dit, c'est génial. Et là, c'était bizarre, parce que c'est la première fois qu'on voyait un truc grandir, et personne n'a tapé dessus. Seuls les Arocs l'ont fait. Sinon, tout le monde a été unanime.
L'Angleterre, le marché du disque le plus exigeant en Europe. L'année dernière, deux Parisiens ont touché le jackpot. Leur nom, Daft Punk. Record absolu, 1 300 000 albums. En ce moment, d'autres jeunes Français tentent d'exploiter le filon. Ils s'appellent R. Une semaine après la sortie de leur album, leur vente affiche 75 000. Et voilà du coup propulsé à la 6e place des hit-parades, du jamais vu depuis Serge Gainsbourg.
Il n'y aurait jamais eu aucun carton, il ne se serait jamais rien passé sans les Daft. Enfin, sans leur carton à eux, parce que c'était un vrai carton. Il n'y a pas eu d'autres cartons.
Philippe Sdar, 2005.
Enfin si, Roy Mojo, tout ça, hein, bien sûr, ouais. French Touch, tout ce que ça représente. Je parle de départ, je parle pour tout le monde, quoi. Sans eux, ça restait un truc ouais. En dessous. Il y aurait peut-être eu le terme French Touch, je me demande même s'il n'existait pas. Mais bon, quoi qu'il arrive, la révolution, elle a été là, quoi. La funk, Around the World, voilà. Ça a vraiment été un truc qui a mis un gros coup de projecteur.
Mais ça, on est tous d'accord là-dessus, hein, de dire que effectivement, Homework, c'est le point de départ, c'est le drapeau que tu plantes sur la lune, quoi. C'est ça, c'est comme Philippe le dit, ça a ouvert et ça a pavé la voie de toute la scène après.
J'avais pas encore cette notion de me dire ça va marcher, tu vois.
Benjamin Diamond, du groupe Stardust.
Et en fait, j'ai un souvenir d'être parti. C'est là où j'ai pris conscience du truc. Je crois que c'était en 98, quand on allait faire le clip de Stardust à Los Angeles. Et je me rappelle, à Melrose, on achetait des fringues. Et tout d'un coup, j'ai vu un espèce d'immense mur avec la pochette du premier album des Daft. Et je me suis dit, ah ouais, carrément, genre, les mecs sont à LA sur un mur. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ils avaient fait un immense pochoir avec les Daft. Et j'ai fait, ah ouais. Tu dis là, bah d'accord. Ok, on est à Los Angeles, d'accord. Ok.
We'll be right back.
secrète de la French Touch. Épisode 3. La déflagration homework.
Bonjour, vous êtes à New York chez Vinylmania. On a plein de disques français ici. La France est en train d'exploser dans le monde. Je devrais avoir un Daft Punk à vous montrer. J'ai tout vendu. En fait, on est toujours à court de Daft Punk.
Daft Punk explose avec Homework, qui est un raz-de-marée, mais qui est finalement un album très underground.
Bob Sinclair.
Tout le monde parle, oui, ça devient commercial, mais les sonorités, il n'y a pas de chansons, c'est quasiment, enfin, c'est que des instrumentaux, mais il y a une image, il y a un impact phénoménal sur la jeunesse et qui à ce moment-là voit arriver ces musiques électroniques de façon tu vois, mondiale. Je sais qu'on vient de la funk et je sais que Daft Punk vient du rock. Tu vois, donc c'est ce qui fait peut-être aussi, peut-être qu'un psychologue nous dise pourquoi à un moment ces deux cultures underground qui viennent d'une culture blanche et d'une culture noire se sont réunies à travers une musique électronique qui fait qu'aujourd'hui ce sont les musiques les plus écoutées dans le monde. Ce qui est assez fabuleux, qui est une fusion qui s'opère depuis 25 ans maintenant.
Son premier album Homework, donc en 1997. Je pense que le premier coup, le coup de génie, en tout cas l'étincelle.
Pedro Winter.
Et Daft Punk rend hommage à la scène Chicago de l'époque. Et d'un coup, les producteurs américains se sentent valorisés, concernés en disant tiens, il y a des petits Européens là qui nous rendent finalement ce qu'ils nous ont volé.
Ouais, t'arrives à Chicago, même si les mecs ils te présentent la feuille, machin et tout ça, comme si on était genre les gros pros qui arrivent.
Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au Même Cristo, 1997.
Tu te dis bon, on va jouer à Chicago, mortel, c'est Chicago, on adore et tout. Et tu te rends compte qu'en fait, les chums directement ils viennent te voir. Salut, je suis Marshall Jefferson. Donc, ouais, salut, Roy Davis. Ils commencent à nous parler, il y avait Gemini, ils sont tous avec Alexis.
Les gens, c'est mystique, hein, sérieux.
Attends, non, mais surtout que nous, le mec, il y a les petits blancs de 20 ans, là, avec les gros cubes là du ghetto qui ont contrôlé, nous, un peu de tu vois, de milieu plus aisé et tout ça, sans avoir vraiment galéré. T'as les mecs, les gros parrains de l'âge du vrai ghetto qui ont trop galéré, qui avec leur, qui sont à moitié des gangsters, des fois.
Ouais, c'est ça qui fait la différence et qui fait que cette musique, elle a marché. Et c'est ce qui nous a touchés chez eux et qui est en nous, quoi. C'est pas faire de la thune, c'est pas se taper un délire de succès ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Enfin, moi, si je fais de la musique, c'est ultra personnel, quoi. C'est disons que intérieurement, tu vois, et ben, la zik, ça m'a trop fait du bien, quoi. Et bon, je me suis dit, bon, je vais en faire, quoi, tu vois, et je vais faire aussi bien que pour le rendre, aussi bien que ce qui a pu me faire du bien, tu vois. Et j'espère qu'on est en train de le faire, quoi, et qu'on le fera toujours.
Moi, je me disais, ouais, les mecs, ils vont pas venir nous voir, on est blanc, on leur vole le truc, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est, on se ramène, genre, 5-6 ans après, complètement revenu de la dernière pluie. Hein. Et en plus, ce qu'on fait, ça marche et tout ça.
C'est incroyable.
Tout de suite, mettre les choses au clair en disant, hey, les gars, nous, on est des petits Parisiens. On adore la musique de Chicago, notamment le label Dance Mania. On est inspiré, mais on le refait à notre façon. C'était absolument pas une pâle copie. Mais tout de suite, ils se sont placés en disant, on rend hommage quand même à ces pionniers-là à travers le morceau Teachers.
Quand j'ai entendu le Daft Punk pour la première fois, je me suis dit, putain, c'est exactement, tu vois, ce que j'avais envie de faire, des trucs comme ça.
Étienne de Crécy.
Après l'album, j'ai trouvé, moi j'ai écouté beaucoup aussi de musique de Chicago et tout ça. Donc c'était pas une claque comme les gens qui connaissaient pas la musique de Chicago ont pu, tu vois, découvrir. Les gens qui ont découvert la musique électronique ou la techno par l'album de Daft Punk, c'est une claque énorme parce qu'effectivement, ils se font synthétiser toute cette musique-là en un album. Donc c'est là où le truc qui était impressionnant, effectivement. Je pense que tous les gens qui connaissaient les DJ Sneak et les Armand Van Delden remontent Tony avant. Et ça, son truc de compression particulier. On était peut-être moins impressionnés que... C'est vrai qu'eux, ils ont réussi à mettre tout ça en même temps, dans un même truc qui était somptueux, quoi. Mais maintenant, j'ai pas eu une révélation. Par contre, j'ai trouvé ça, le côté pop de leur album dément, quoi. Vraiment ça qui m'a plu. Mais c'était pas... J'ai pas pris une énorme claque.
Les Daft, ils avaient leur point de vue.
DJ Grégory, 2005.
Ils étaient un peu 80s avant l'heure, ils avaient un truc un peu rock avant l'heure, ils avaient leur truc, quoi.
Parce que très jeune, ils se faisaient découvrir beaucoup de musique, beaucoup de films.
DJ Falcon.
Faut quand même rappeler que c'est quand même Guyman qui avait dessiné le logo. Donc Guyman avait en plus ses talents pour tout ce qui est visuel, etc. J'ai l'impression que dans la musique, quand on est assez bon dans ce côté visuel, image, j'ai l'impression que ça aide.
Pour l'album, ils sont arrivés, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient.
Serge Nicolas, graphiste du premier album des Daft Punk.
Ils voulaient un album, un visuel qui soit très marquant, comme la pochette des Stones, là, avec la braguette. Ils voulaient Tomato Ketchup, Kiss. Enfin, voilà, c'était leur référence, c'était des trucs très, très pop, comme ça. Et pas du tout l'univers visuel, électronique, un peu abstrait, etc. Autant ils adoraient la musique, mais autant tout ce qui était graphisme autour de ça, ça leur plaisait pas. Leur référence, c'était vraiment des trucs rock qui étaient assez forts. Je dirais que c'est un peu comme quand on faisait des logos de groupes de heavy metal, quoi. Hein, où on écrivait, je sais pas, Metallica, Iron Maiden, sur une trousse d'écolier. Enfin, c'est un peu ce type de graphisme, hein. On va dire, il a fait un graphisme un peu à la main, comme ça, un logo, quoi. Ça représente rien, hein. C'est simplement une façon d'écrire le nom Daft Punk. Et donc, ben voilà, effectivement, l'album, il est très rock dans son design, quoi.
Quand tu ouvres l'album Homework, l'idée, c'était de recréer un bureau.
Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk.
Bah, le bureau de Thomas Guiman, d'ailleurs, le bureau d'un étudiant, d'un adolescent. On voit fan de musique, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la musique, évidemment, poster de Kiss, des stickers de Led Zeppelin, des Who, un tourne-disque sur lequel un petit 45 tours de Chic est posé. Il y a une radio, un cahier de devoirs, les homework, et dessous, d'ailleurs, ce petit cahier est planqué un petit Playboy, parce que c'est un petit coquin qui, chaque adolescent n'a pas planqué un Playboy sous son matelas, lève la main. Un globe, donc un petit clin d'œil certainement à Around the World. Je pense que l'idée était d'illustrer chaque titre de l'album Homework. D'ailleurs, sur les sous-pochettes, on reprend des détails de cette photo. Le globe pour Around the World, la platine vinyle pour Rolling and Scratching, etc. Voilà, là je revois avec le sourire, je revois un peu cette photo que j'avais pas vue depuis longtemps. J'avais complètement oublié qu'il y avait une Bible. Ça, je pense que c'est Guyman qui l'avait glissé dans le décor. Un Dr Pepper, qui était notre boisson préférée avec Thomas, ça je m'en souviens. Quelques cassettes, et là on peut faire un petit big up à la scène de Chicago, puisque ce sont que des cassettes de Ghetto House, des compiles de DJ Deon, de Slugo et compagnie. Il y a un petit clin d'œil évidemment à Darling. Il y a des photos d'eux jeunes. On reconnaît bien Thomas et Guyman. Ici, petite anecdote, moi j'ai gardé quand même un héritage de cette époque-là. J'ai gardé le petit cahier que vous voyez là, Homework, et je l'ai encadré, tel la Mona Lisa, dans mon bureau. Alors il a perdu sa couleur originale, là, qu'on voit qu'il est un peu vert-bleu. Bon, il fait un peu plus la tronche, hein, puisque c'était en 1996, donc oula, ça commence à piquer. Donc à la fin des remerciements sur l'album Homework, il y a cette citation de Brian Wilson. J'avais envie d'écrire une musique joyeuse, une musique faite pour que les gens se sentent bien, une musique qui guérisse et qui aide les gens, parce que je crois que la musique est la voix de Dieu.
À suivre, épisode 4, Les Mousquetaires du son.
Évidemment, grand fan de l'album de MC Solar, premier album, et puis comme il y a des pochettes de disques, on s'intéresse à ceux qui fabriquent cette musique-là, donc on voit apparaître des noms comme Jimmy Jay, Pigalle Boom Bass, Star Wars, comme il se fait appeler. Putain, c'est incroyable, et on est fasciné parce que les mecs sortent et vendent à ce moment-là 1 million d'albums sur le premier album.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.